Bonjour, pour la Bibliothèque théologique de Fréquence Protestante, je vous propose aujourd'hui de vous présenter un livre fort utile qui s'intitule Jésus et son monde. Il est écrit par Ludovic Nobel et c'est publié aux éditions du Cerf. Et donc ce livre, qui est d'un format tout à fait raisonnable puisqu'il fait moins de 200 pages, nous donne simplement et très objectivement le contexte dans lequel est né l'Évangile. En effet, le danger aujourd'hui de nos Bibles, c'est que nous lisons le Nouveau Testament en traduction, donc comme si c'était écrit dans notre langue, et on risque d'oublier que l'Évangile n'a pas été écrit dans notre langue, mais a été écrit dans une culture qui n'est pas la nôtre, et dans un contexte historique qui n'est pas le nôtre. Alors déjà, il y a fait référence dans l'Évangile de certains nombres de groupes, d'événements, comme par exemple les pharisiens, les sadducéens, ou d'autres, il est fait référence aussi à des événements historiques, par exemple Hérode Antipas ou d'autres, Ponce Pilate, le fonctionnement du peuple et de la société à l'époque du Christ est quelque chose de particulier dont souvent nous ignorons beaucoup de choses. Et puis d'autre part, Jésus a aussi écrit dans un contexte intellectuel qui était celui du judaïsme de son temps, et mais également celui de toute la pensée religieuse, philosophique et intellectuelle du bassin méditerranéen et de l'Empire romain dont dépendait Israël à ce moment-là. Alors il est absolument indispensable de connaître, je dirais, tous ces présupposés de l'Évangile, c'est-à-dire d'où parle Jésus et à partir de quoi et à quoi il fait référence. Ça permet d'éviter évidemment d'abord des contresens et en plus de comprendre peut-être plus en profondeur pourquoi Jésus dit cela et ce qu'il dit. Je pense en particulier bien sûr à tous ces débats avec les religieux, avec les pharisiens, les sadducéens, mais aussi à des événements très particuliers comme quand il est question de noces. Alors on parle effectivement des noces de Cana, des vierges sages et des vierges folles, ces jeunes filles avec leurs lampes. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes filles avec des lampes qui essayent d'entrer dans la salle de noces? On n'en sait rien parce qu'on ne sait pas comment se passaient les noces à l'époque et il est donc important de savoir ce qu'il en est. Ou encore de ces personnages curieux qui étaient les péagers, donc les collecteurs d'impôts de l'époque qui étaient mal vus. Et puis, puisqu'on parle d'impôts, il est aussi question de savoir qu'est-ce qu'il y avait précisément comme impôt, comme taxe à l'époque, comme monnaie. On parle de la parabole des talents, combien valait un talent, combien valait une mine, un statère, une drachme, etc. Et donc tout cela, ce sont des éléments qui sont importants pour essayer de comprendre comment ça se passait du temps de Jésus et quelles étaient les références auxquelles peuvent faire allusion l'Évangile. Et donc ce petit livre de Ludovic Nobel nous donne d'une façon très, très exhaustive et large le contexte dans lequel Jésus parlait. Alors il commence par le contexte historique, le cadre historique, je vous disais, de l'Empire romain. Donc comment était structurée à ce moment-là la société, les pays, la politique, avec l'Empire romain qui gouvernait sur l'ensemble, la Palestine, Israël, qui était à ce moment-là une sorte de territoires occupés, et sur lesquels régnaient des empereurs locaux, dont Hérode Antipas, Archélaüs ou Philippe, qui était tétrarque. Et donc ces empereurs locaux qui pouvaient diriger tout en faisant allégeance à Rome, mais auxquels Rome laissait un certain pouvoir, la distinction entre les citoyens et les hommes libres, que l'on voit arriver dans tous les débats avec en particulier l'apôtre Paul, et puis les mouvements qu'il a pu y avoir, comme la révolte des Maccabées en -164, c'était très intéressant, où effectivement il y a eu des juifs qui ont essayé de libérer le temple par rapport aux Grecs à ce moment-là, et ce qui a donné naissance à la fête de Hanouka qui est fêtée chez les juifs, et dont on ne parle pas chez nous parce qu'il n'en est pas question dans notre Bible, avec la dynastie des Maccabées ou des Asmonéens qui apparaît, et qui arrive jusqu'à moins 40 avec Hérode le Grand qui reprend le pouvoir. Hérode le Grand, dont Flavius Joseph a dit beaucoup de mal et qui en fait semblerait qu'il n'était pas si mauvais que ça. Hérode le Grand qui va avoir trois fils qui vont se partager le royaume, Archélaüs, Antipas et Philippe, avec des tas d'histoires entre eux, dont certaines nous sont parvenues jusque dans l'Évangile, avec en particulier l'histoire de Jean-Baptiste, vous savez, dont le roi Hérode demande la tête, parce que Hérodiade, il voulait épouser Hérodiade, qui était la fille de son frère. Alors on découvre que du coup, d'ailleurs l'Évangile se mélange un petit peu entre les frères d'Hérode Antipas. Certains disent que c'était Philippe, d'autres que c'était Antipas en fait. Enfin, en tout cas, voilà. Donc on a comme ça des précisions historiques sur toutes ces choses-là. Et puis également avec le règne de Ponce Pilate, qui était procurateur ou qui était préfet, gouverneur de Judée, et qui a eu un certain rôle, on sait exactement quand, et tout ça nous donne des éléments. Avec en plus d'autres encore éléments historiques qui sont relatés dans l'Évangile et qui sont précisés là, en particulier la question de la naissance de Jésus, où on dit qu'il naît au moment du règne d'un tel, quand il y a eu un recensement, enfin il y a des tas d'éléments comme ça qui sont dits et qui sont plus ou moins vérifiés par l'histoire, et en tout cas c'est intéressant d'arriver à s'y retrouver. Donc le cadre historique, vous disais-je, qui est intéressant, et puis également tout le contexte religieux. Alors, on connaît à peu près, si on a un peu de culture biblique, la question des pharisiens et des sadducéens, puisqu'il en est question dans l'Évangile. Les sadducéens qui étaient un peu l'aristocratie juive et qui avaient un peu le pouvoir dans la prêtrise autour du temple, et qui croyaient dans l'Ancien Testament, mais qui refusaient la loi orale du Talmud ou du Midrash. Bon, ça, on le sait à peu près. Les pharisiens, qui eux étaient un petit peu les spécialistes de la loi, avec tout l'appareil du Talmud et des Midrash qui disaient des tas de choses importantes. Et on sait aussi qu'il y avait un autre groupe, dont curieusement l'Évangile ne parle pas, qui étaient les Esséniens. Et dont l'Évangile ne parle pas directement, mais qui ont eu évidemment une grande influence, au point même que certains ont pu penser que Jésus aurait pu être lui-même un Essénien. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on a plutôt abandonné cette thèse. Mais alors, les pharisiens ont une très mauvaise presse, et Ludovic Nobel explique que probablement c'est dû à quelque chose qui est que il y a eu la guerre des Juifs, donc où en 70 Jérusalem et le temple ont été détruits par les Romains, et qu'à ce moment-là, tous les groupuscules juifs ont disparu, sauf les pharisiens qui ont perduré. Et que par conséquent, c'est contre les pharisiens que les premiers chrétiens se sont battus. C'est-à-dire que leur opposant juif était fondamentalement pharisien. Et donc, on peut penser que cette espèce d'antinomie avec les pharisiens qu'on voit dans l'Évangile est due en grande partie par le fait que les pharisiens étaient ceux qui étaient le plus opposés aux chrétiens qui ont rédigé les Évangiles, alors que les autres avaient disparu de la circulation. En tout cas, il y a effectivement ce contexte juif, nous le connaissons à peu près bien, mais ce qui est intéressant en plus, c'est que Ludovic Nobel, donc dans son livre Jésus et son monde, nous parle du contexte religieux romain. Et là, c'est très intéressant parce que on sait que Paul, par exemple, fait référence parfois à certains philosophes. Certains se sont demandé si le prologue de Jean, avec l'histoire du Logos, ne pouvait pas faire référence également à de la philosophie grecque. Alors peut-être que oui, peut-être pas. Moi, je pense pas trop. Mais en tout cas, toute cette pensée religieuse et philosophique du bassin méditerranéen était évidemment présente d'une façon ou d'une autre en Palestine au moment où Jésus a prêché. Et donc ce serait certainement une erreur que de l'ignorer. Or, mes amis, est-ce que vous connaissez quoi que ce soit de ce qu'était la religion des Romains ou la piété des Romains à ce moment-là? En tout cas, moi, j'avoue que je n'en sais à peu près rien. Sauf cette opposition à César, donc, puisque les Romains devaient dire Kyrios César, donc le Seigneur c'est César, et que les chrétiens ont dit le Seigneur c'est Jésus-Christ, donc opposant Jésus-Christ à César. Ça a d'ailleurs été, d'après Ludovic Nobel, une des causes de l'opposition au christianisme, c'est qu'il y avait un contexte religieux dans l'Empire romain qui fonctionnait finalement assez bien, où on valorisait trois qualités essentielles qui étaient la virtus, la pietas et la fides, la vertu, la piété et la fidélité ou la foi, et que ce contexte religieux romain, qui n'était pas très élaboré, finalement était un vecteur de stabilité sociale et permettait de trouver une certaine cohérence dans l'ensemble de l'Empire romain. Et donc quand Jésus apparaît, et effectivement, du coup, comme de nouvelles religions apparaissent, c'est vu comme une sorte de menace pour cette unité de l'Empire romain. Et on comprend pourquoi, effectivement, l'Empire romain a toujours essayé de lutter contre les autres religions qui risquaient de créer une faille dans cette unité nationale. Entre nous, c'est un peu la même chose qui s'est passée quand le protestantisme est arrivé et la lutte contre le protestantisme en France a été du même ordre, en considérant que le catholicisme était ce vecteur d'unité et de respect du roi. Alors, cet empire romain avait cette foi-là, mais en même temps, il y a eu d'autres courants religieux extrêmement importants, des courants philosophiques comme l'épicurisme ou le stoïcisme qui chacun proposait une façon de s'élever spirituellement, soit pour l'épicurisme de se retirer dans le calme en ne fuyant pas dans le spirituel, soit dans le stoïcisme de vivre en harmonie avec la nature, et également le contexte donc juif dont j'ai déjà parlé, avec la contestation que Jésus a eue également de la foi juive, en particulier en se faisant baptiser par Jean dans le désert. Et ce baptême de Jean-Baptiste dans le désert était en soi une contestation par rapport au système juif habituel, qui considérait que pour être pur, il suffisait d'être dans la bonne religion, autrement dit, et de faire les rites et les sacrifices qu'il fallait. Or, apparemment, d'après Jean-Baptiste, eh bien, ça ne suffisait pas, puisqu'il fallait en plus se faire baptiser pour reconnaître ses fautes. Alors tout cela fait que nous avons un contexte dans lequel Jésus a prêché, dans lequel il a agi, et ce petit livre de Ludovic Nobel va ensuite lister tous les différents moments absolument essentiels, non seulement du contexte global, mais de la vie des Juifs de cette époque, c'est-à-dire ce que représentait le désert, par exemple, ce que représentaient les tentations au désert, la Galilée, cette région de Galilée absolument étonnante qui a un statut très particulier, le lac de Tibériade, les façons, même la façon avec laquelle on pêchait à l'époque, c'est la question des filets, de la pêche, etc. Et tout ça permet de comprendre d'une autre manière les textes. Le fonctionnement de la synagogue, du mariage, des fiançailles, du rôle de la Samarie et des Samaritains, du rôle de Jérusalem, des grandes fêtes, des pèlerinages, le temple, les pratiques funéraires, et puis ces piscines dont on parle aussi, de Bethsaïda ou de Siloé. Enfin bref, tous ces détails dont l'Évangile nous parle et qui sont là, nous sont montrés dans leur réalité historique. Je dirais que ce petit livre de Ludovic Nobel est comme un voyage en Israël, c'est-à-dire que tout à coup on comprend le contexte dans lequel l'Évangile a été écrit et c'est extrêmement éclairant. Alors voilà donc un livre à mon avis très utile pour tous ceux qui connaissant l'Évangile essayent d'en savoir un peu plus et de comprendre d'où est venu l'Évangile et la prédication du Christ, ce qui permet certainement d'éviter un grand nombre de contresens même dans la lecture de l'Évangile, qui peut aussi donner des pistes intellectuellement intéressantes et aussi spirituellement intéressantes pour comprendre ces textes, parce que du coup on voit d'où ils viennent. Donc ce livre s'appelle « Jésus et son monde », il a été écrit par Ludovic Nobel, qui est professeur de Nouveau Testament à l'Université de Fribourg et qui fait de nombreux voyages en Terre Sainte, donc il connaît très bien tout ce milieu d'Israël. Ludovic Nobel, Jésus et son monde, et c'est publié aux éditions du CERF. Je vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à bientôt pour un autre livre. Au revoir.